Ce qui me fait plaisir en valorisant ces bouillies, c'est surtout en fait le sentiment de faire un peu un pied de nez au diktat des tendances culinaires. J'ai l'impression de faire un peu un pas de côté du fait de m'aventurer hors des sentiers battus, de chroniquer des adresses qui n'ont pas du tout d'actualité. En fait, les bouillies sont présents depuis tellement longtemps qu'on aurait tendance un peu à les oublier.
Alors sur Instagram, je fais mon contenu un peu phare, c'est des petites vidéos, des petites capsules d'environ 30 secondes qu'on appelle les Reels, qui sont en fait des reviews de restaurants où je présente mon expérience, je donne mes impressions sur mes dégustations, je monte le décor, je raconte un peu une histoire et j'essaye de mettre un peu les internautes en immersion comme s'ils y étaient.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Manger et donner son avis. Je ne me souviens pas avoir vu ces deux compétences mises en avant dans les fiches ONICEP que la conseillère d'orientation nous montrait au lycée. Et pourtant, le métier de critique culinaire existe en France depuis le début du 19e siècle. Dans quel salon feutré cette activité est-elle née? Comment l'art de juger les plats des autres est-il devenu une profession? Et sur quels critères choisit-on de critiquer la nourriture au juste? Quel est le sens des classements étoilés? À quoi riment ces grandes messes récompensant chaque année les soi-disant meilleurs restaurants au monde? Peut-on décemment hiérarchiser la cuisine sans tomber dans des biais occidentalo-centrés? Et d'abord, la critique culinaire, est-ce que c'est pas un truc de riche par hasard? Dans cette série, mettons les pieds dans le plat et allons disséquer le travail des plumes, tantôt enjôleuses, tantôt acerbes, qui semblent faire la pluie et le beau temps sur la réputation des restaurants. Partons à la rencontre de ce métier mystérieux et parfois, ironiquement, critiqué. Un jour pour ses courbettes injustifiées, le lendemain pour son injuste sévérité. Alors, de quoi la critique gastronomique est-elle le nom? Il faut parfois l'éruption d'un mot, d'une expression, pour que les choses prennent sens, pour qu'elles prennent enfin forme dans nos esprits et donc pour qu'elles prennent vie dans l'existant. La mélancolie, l'adolescence ou encore la gourmandise, par exemple, existaient-elles avant qu'on ne les nomme et qu'on décide que ces notions méritaient un vocable pour être désignées, convoquées, utilisées dans le langage? Il en est ainsi du travail des critiques, qui, dans les arts, la littérature ou la cuisine, ont aussi permis, quelquefois, de croquer un goût ou une pratique de l'époque, à travers l'invention d'un terme, lui offrant ainsi la postérité. C'est par exemple le cas de Henri Gault et Christian Millau, deux patronymes que l'on entend aujourd'hui souvent réunis à travers l'évocation du mythique guide Le Gault et Millau. Henri Gault et Christian Millau, donc, ont été les premiers à parler de nouvelle cuisine. Nous sommes alors en 1973 et lors d'un repas chez Bocuse, les deux critiques gastronomiques ressentent une grande émotion culinaire face à une salade de haricots verts al dente, puis des rougets de roche peu cuits. Des goûts simples, tranchant radicalement avec la complexité et le conservatisme de certaines recettes d'alors. La même année, Henri Gault et Christian Millau retrouvent ce même fil conducteur chez plusieurs autres chefs, tels que les frères Troisgros, Michel Guérard, Alain Sandrins ou encore Roger Verger. Autant de chefs qui semblent avoir tourné le dos au canon esthétique du 19e siècle à la Escoffier. Pour les deux critiques gastronomiques, il est évident que la gastronomie est en train de vivre un tournant. Henri Gault et Christian Millau lui donnent un nom à ce tournant, la nouvelle cuisine française. Gravé dans le marbre de l'histoire de la gastronomie, ce nom s'accompagne aussi de 10 commandements, parmi lesquels on retrouve la réduction du choix des cartes, la réduction du temps de cuisson, l'utilisation des produits du marché ou encore la cuisine allégée. Plus récent, le mot bistronomie est lui aussi un vocable qui a permis de croquer une tendance de l'époque. On le croise aujourd'hui si souvent qu'on en oublie que ce néologisme n'existe que depuis 2004. C'est vraisemblablement à Sébastien Demorand, lors d'une réunion du jury du fooding, que l'on doit l'invention de ce terme qui désigne de la grande cuisine servie en petite quantité. Analyser la nourriture, passer au crible des manières de faire, rendre compte de l'actualité culinaire, disséquer le contenu des assiettes des restaurants et raconter les petites histoires qui se cachent derrière la grande histoire de la gastronomie, voilà très certainement le rôle des critiques culinaires. Mais si la chose alimentaire évolue au gré de contextes socio-économico-culturels, eh bien les manières d'en parler aussi peuvent être modifiées par l'apparition de nouveaux formats. Ainsi, la critique culinaire, longtemps associée à la presse écrite, a pu au cours du temps se défaire de la chose imprimée. Sur Internet, on critique désormais la nourriture à travers des outils plus immédiats, tels que les blogs et les réseaux sociaux. On observe ainsi une démocratisation du travail de critique. Autrement dit, tout le monde peut décider, avec plus ou moins de talent, plus ou moins de méthode, plus ou moins d'audience, de se lancer dans l'exercice de la critique. Ces nouveaux médias permettent en quelque sorte un renouvellement de la figure du critique, mais aussi un renouvellement de son public. Chloé Vasselin tient Boui Boui, un blog qui met en avant des cantines populaires représentatives des cuisines des quatre coins du monde, où l'on mange des plats familiaux et roboratifs pour quelques poignées d'euros. Elle explique comment ce projet de blog, devenu guide d'évasion gourmande à moins de 15 euros, est né.
Je suis Chloé Vasselin, je suis autrice du blog et du guide du Paris Boui Boui. Un blog et du coup un guide qui met en avant des petites cantines qui ne payent pas forcément de mine, mais où on sait qu'on va se régaler pour peu.
Chloé a à cœur de ne pas se faire avoir par Internet et son filtre algorithmique. Elle préfère partir à la recherche des bonnes adresses en furetant dans différents quartiers et en engageant la discussion avec des personnes croisées dans un commerce ou encore dans le taxi.
Je ne suis pas de ceux et celles qui vont trouver une adresse sur Google Maps ou sur les réseaux sociaux. Je fais partie... c'est un vrai, comment dire, un vrai kiff d'être sur le terrain. Voilà, j'arpente à pied et à vélo Paris de fond en comble. Et donc, je repère des adresses lors de mes vadrouilles. Je le note sur mes carnets, puisque je suis quelqu'un qui est old school et j'ai toujours un petit carnet sur moi. Et je demande systématiquement à des gens que je rencontre quelles vont être leurs cantines de quartier, où est-ce qu'ils vont déjeuner ce midi. Quand je prends un taxi, pareil, je leur demande aussi. Mais ça peut être au bout de la terre, comme ici, je demande systématiquement où est-ce qu'on finit manger. Donc c'est déjà, comment dire, une manière de trouver des adresses un petit peu différentes à l'heure où normalement on se réfère à notre ami Google. Voilà. Et ce qui, ensuite, pour les critères de sélection, c'est disons que j'ai toujours les mêmes. un boui-boui pour moi, ça va être une bonne cuisine qui va être généreuse et sincère. Une constance dans la qualité de la cuisine. Je fais vraiment attention au fait d'avoir une régularité dans la cuisine. Donc pour ça, ben, je viens plusieurs fois goûter, tester à des heures différentes le boui-boui ou la cantine où je vais. Et je mets souvent de côté le cadre. c'est pas forcément un critère pour moi. Je favorise davantage en fait l'atmosphère générale du lieu plutôt que l'accueil. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des adresses qui vont et des bonnes adresses où l'accueil va peut-être laisser à désirer, le service va peut-être être expéditif ou pas forcément à la hauteur, mais ça va faire partie de l'expérience. Le patron par exemple ou la patronne qui va être bougonne, ça va faire partie du charme du lieu. Et pour moi, ça dénote aussi quelque chose. Et ça, voilà. Et puis, bien sûr, un critère qui est évident, c'est l'addition. Elle ne doit pas excéder 15 euros par tête.
J'aime beaucoup ce que dit Chloé à propos du service peu formel qu'il y a souvent dans les boui-boui. L'importance qu'il y a finalement à être plus sensible à l'âme du lieu qu'aux codes habituels du restaurant. Une patronne un peu bougonne, un terminal de carte bleue qui ne fonctionne plus, un menu taché par des traces de gras. Au fond, qu'importe, tant qu'on retrouve arrimé à une table toute l'authenticité et la sincérité d'une cuisine qui nous propulse alors tout à coup dans l'intimité d'un foyer lointain. J'ai ensuite demandé à Chloé de me parler de ce à quoi elle est attentive chaque fois qu'elle pousse la porte de l'un de ses boui-boui.
La plupart du temps, déjà, je teste d'abord l'adresse seule. Non pas parce que j'aime manger seule, j'adore partager, mais ça me permet en fait d'avoir tous les sens, on va dire, en alerte et d'être réellement dans le ressenti et non pas focaliser sur la conversation de ma copine ou de mon copain. Ou voilà, je vais pas être dans une bulle. Je vais être vraiment attentive à tout ce qui est autour de moi. Ça va me permettre d'observer, d'être plus réceptive, on va dire, à la table d'à côté aussi, aux sollicitations de la salle. Je vais être attentive d'abord à l'ambiance, à l'accueil qu'on va me réserver quand je vais pousser la porte du boui. Et puis, je vais observer la clientèle qui est attablée, savoir si c'est une petite famille, une personne seule, s'il y a des va-et-vient entre la cuisine et ici, si on se sent chez soi ou alors une table un peu plus lambda. Je vais avoir tendance aussi à demander systématiquement, quand je m'attable, je vais avoir tendance à demander à ce qu'on m'aiguille sur la carte. Donc, je vais demander par exemple à mes voisins de table s'ils ont une recommandation à me faire ou au serveur s'il a un plat qui me recommande, s'il y a quelque chose impératif à ne pas louper, en fait. Voilà, ça me permet à la fois de savoir s'il y a des habitudes dans ce boui-boui et des plats voilà, à pas louper. Je vais être évidemment aussi attentive à ce qu'on va me servir dans l'assiette, évidemment, ou dans le bol, mais ce sera toujours, on va dire, un tout. Parce que dans un boui-boui, pour moi, quand on va dans un boui-boui, c'est davantage une expérience. Voire même un acte engagé.
Pour Chloé, manger dans ces lieux pour continuer à les faire vivre, c'est un acte engagé. Car ces lieux sont des refuges, des bastions qui représentent un pan de culture quelque part dans le monde. Alors, tenanciers, tenancières, cuistots et cuistottes de ces cantines deviennent des ambassadeurs et ambassadrices de leur pays d'origine.
Je trouve que quand on va s'attabler dans un boui-boui, on soutient finalement un commerce de proximité, un commerce qui trime depuis souvent pas mal de temps. C'est des adresses qui ont pignon sur rue depuis plus de 10 ans et qui ont une âme, voilà. Et donc cette âme, je trouve que c'est ça retranscrit aussi un lien social qu'on ne va pas trouver dans toutes les adresses. Et c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en avant.
Ces cantines sont également des lieux de caractère. À l'heure où beaucoup de restaurants affichent le même goût pour les lumières tamisées s'échappant de luminaires ronds, les murs blancs et les plantes vertes, ces boui-boui et leur charme désuet sont un rempart à l'homogénéisation des styles.
Ils ont chacun leur particularité, en fait, dans les boui-boui, et c'est ça que j'aime. Ils ont leur caractère, ils ont leur singularité. Ce sont des tables qui n'ont pas les mêmes codes esthétiques qu'on va retrouver, effectivement, dans les restaurants qui s'ouvrent actuellement. Et on est loin d'un resto épuré où on va soigner le dressage, la déco, etc. Le boui-boui, il a souvent une sale mine vue de l'extérieur. C'est le poids du temps qui est passé sur lui, mais moi, c'est ça qui va m'attirer. Il raconte à lui seul une histoire, en fait. Rien que la devanture va raconter une histoire. Mais dès l'instant où on va oser pousser la porte, on a l'assurance, en fait, d'un repas qui va revigorer et qui va rappeler la maison. Pour la plupart, les boui-boui, c'est souvent ça, en fait. C'est une extension de la maison. Et on a oublié, en fait, ça. Les boui-boui d'aujourd'hui, c'est un peu les bistrots d'hier.
Chloé nous parle de ses deux coups de cœur récents.
J'ai notamment un coup de cœur qui est pas très loin de la maison, qui s'appelle la Tour de Belleville, qui est une cantine chinoise où on peut manger des nouilles tirées, des soupes de nouilles tirées. Ça paye pas une mine de l'extérieur. La personne qui est en train de tirer la pâte avec ses mains est en vitrine. Et dès l'instant où on pousse la porte, on est happé en fait par l'odeur du bouillon de la soupe. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très présent en moi. En fait, le rappel des souvenirs, des odeurs que j'ai pu avoir en voyage, c'est quelque chose souvent qui va me happer et me faire venir dans des cantines. Un autre coup de cœur que j'ai eu récemment, c'est une cantine, pour le coup, sénégalaise, qui est rue de Doudoville, pour laquelle je n'ai pas encore chroniqué. Je passais devant souvent à vélo et j'étais toujours essoufflée. Et donc, je ne prenais pas forcément le temps de m'arrêter.
En ne chroniquant que des bouibouis, Chloé a choisi de valoriser des adresses qui se retrouvent souvent dans l'angle mort de la presse spécialisée, habituellement davantage tournée vers les ouvertures de nouveaux restaurants et le mercato des toques étoilées.
Ce qui me fait plaisir en valorisant ces bouibouis, c'est surtout en fait le sentiment de faire un peu un pied de nez au diktat des tendances culinaires. Je dis ça, mais j'ai l'impression de faire un peu un pas de côté du fait de m'aventurer hors des sentiers battus, de chroniquer des adresses qui ont pas d'actu, qui ont pas du tout d'actualité. En fait, les bouibouis, ils sont présents depuis tellement longtemps qu'on aurait tendance un peu à les oublier, en fait. Le fait de parler d'eux alors qu'ils n'ont pas d'actualité me permet en fait de mettre en lumière, je vais dire, des petits héros du quotidien. Voilà. Ils sont là depuis longtemps, ils triment depuis longtemps, ils nous régalent depuis plus de décennies. Et en fait, j'entends encore des gens dire « Oh là là, je suis passée devant... des centaines de fois et j'ai jamais osé pousser la porte. » Et donc voilà, c'est ça qui me fait plaisir. C'est donner en fait l'impulsion à plein de gens d'oser pousser la porte.
Récemment, sur sa page Instagram, Chloé s'est exprimée sur les effets néfastes de certains gros comptes TikTok qui médiatisent des petits bouibouis. Un coup de projecteur qui a souvent pour effet d'envoyer beaucoup de clients d'un coup et donc qui déstabilise le fonctionnement habituel d'un commerce sans forcément lui faire gagner plus de clients sur le long terme.
En fait, je trouve que TikTok permet à la fois au plus grand nombre de trouver des adresses et d'aller aux mêmes endroits. C'est en fait quelque chose, un travers, on va dire, des réseaux sociaux que j'avais déjà observé quand j'étais dans le secteur du tourisme et que je travaillais là-dedans. J'avais déjà vu les travers du surtourisme sur des lieux, en fait, notamment en Islande ou Cambodge ou je ne sais où, où finalement Instagram ou TikTok ont demandé d'aller prendre une photo absolument à cet endroit-là précisément, et ça détruisait finalement un lieu. Ben, là, je vois un petit peu le même travers pour finalement la food. Sous couvert de découvrir une adresse ou de vouloir partager cette adresse, d'un seul coup, il va y avoir un flux géant parce qu'on ne maîtrise pas forcément la portée de la vidéo. Il va y avoir un flux très rapide pour une petite adresse, une petite restauration, et qui va pas forcément savoir comment se dépatouiller de ce monde. Je l'ai vu notamment auprès de restaurateurs que je connais plutôt bien, où d'un seul coup ils vont avoir la queue et ils vont pas savoir comment accueillir tout ce flot. Donc eux qui avaient des très bons avis sur Google, d'un seul coup, parce que la clientèle va attendre un petit peu trop longtemps, va se retrouver avec des notes un peu plus basses. Le restaurateur va pas forcément savoir aussi gérer son stock. Hier, il avait peut-être, je sais pas moi, 4 personnes dans la queue. Demain, il en a 40 ou 150. C'est très difficile pour lui de gérer le stock. Du coup, c'est ce travers-là que je me pose vraiment la question en fait de la marchandisation des adresses. Et dernièrement, c'est venu vraiment chercher quelque chose en moi que j'avais donc déjà observé dans le surtourisme. Et j'ai peur en fait de ça pour les petites restaurations.
Pour réellement soutenir les petites cantines de quartier, Chloé a une autre idée.
Si on a vraiment envie d'aider, parce que oui, Les restaurateurs ont en ce moment des difficultés à travers, après la pandémie, déjà, ils ont courbé le dos, mais là, d'un point de vue crise financière, c'est pas mal. Si on a vraiment envie d'aider ces restaurateurs, j'ai envie de proposer d'aller au restaurant et notamment dans ces petites cantines, le plus régulièrement possible. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir, en étant fidèle à sa cantine, on va pouvoir, respecter finalement le restaurateur. En disant, moi je sais que je viens toutes les semaines, tous les samedis ou tous les mercredis ou je ne sais quoi. Rester constant dans nos venues va permettre au restaurateur de savoir que tel jour il va faire tant de repas et tel jour il va faire un petit peu moins en cuisine parce que il sait que à partir de 15h tout le monde est reparti au boulot. Ça c'est une démarche on va dire un peu plus valorisante et respectueuse des restaurateurs. Puis je crois aussi que finalement la flux ou le fait que d'un seul coup on mette les projecteurs sur une seule et même adresse va faire perdre finalement la clientèle classique, la clientèle d'habitués. Alors peut-être pas pour toujours, mais en tous les cas pendant un temps. Et je sais pas si c'est l'effet escompté.
En tant que créateur, créatrice de contenu, comment faire pour promouvoir des petites adresses sans les faire souffrir de la viralité du bon plan ? Chloé a choisi, elle, d'éviter l'utilisation de la vidéo, un format trop immédiat qui peut créer un phénomène de groupe trop difficile à supporter pour une petite adresse.
C'est pour ça que je ne me suis pas mise en format, en tous les cas, à de la vidéo. Je reste encore sur des formats photos et où je me suis aussi intéressée au guide papier parce que je trouve que ça n'a pas le même impact pour les adresses, voilà, mises en avant. Ce qui va me poser en fait un petit problème, c'est le côté tous au même endroit au même moment. On pourrait se dire à partir de demain, je me fais une liste et on va sans parler de quotas, mais peut-être diviser un petit peu les propositions. Ce serait bien plutôt que d'être comme des moutons et d'aller tous au même endroit au même moment. C'est comme, encore une fois, je fais un parallèle avec le tourisme, mais rien que le fait de ne pas aller sur les sites touristiques aux mêmes horaires que tout le monde change clairement déjà la donne, ou la même temporalité en fait fait beaucoup. On parle de haute saison touristique, d'étendre la saison touristique va permettre en fait à la destination d'être respectée. Et je pense que les restaurateurs, c'est un petit peu la même chose. Si on n'aura pas la même expérience si on vient pile à 13h30 quand tout le monde vient déjeuner, alors que si on vient en décalé, on sera peut-être un petit peu plus chouchouté.
Pour vous donner à entendre un autre type de critique culinaire 2.0, j'ai choisi de m'entretenir avec Constance Lasserre qui tient le compte Instagram Hungry Consti.
Je m'appelle Constance Lasserre, j'ai 26 ans et je suis créatrice de contenu food sur les réseaux sociaux, donc en particulier sur Instagram et sur TikTok, où je publie pas mal de contenu autour de la gastronomie, donc des reviews de restaurants, des petites recettes et beaucoup de contenu autour de ce qu'on mange en général.
Constance envisage son travail comme celui d'un guide de bonnes adresses.
Alors sur Instagram, je fais mon contenu un peu phare, c'est des petites vidéos, des petites capsules d'environ 30 secondes qu'on appelle les Reels sur Instagram, qui sont en fait des reviews de restaurants où je présente mon expérience, je donne mes impressions sur mes dégustations, je monte le décor, je raconte un peu une histoire et j'essaye de mettre un peu les internautes en immersion comme s'ils y étaient. Je me considère un peu comme un guide des bons plans, c'est-à-dire que je préfère mettre en avant que des adresses que j'ai bien aimées et que les gens puissent, s'ils se disent « Ok, là, j'ai envie d'aller au restaurant indien ce soir, est-ce que Hungry Consti, elle a posté », qu'ils aillent scroller un peu ou qu'ils se demandent qu'est-ce que je vais aller manger demain, qu'ils regardent, voilà, qu'on puisse un peu regarder, consulter à l'envie.
Constance utilise Instagram et la fonctionnalité des Reels, ces vidéos courtes et très cut, à travers lesquelles elle chronique ses adresses coup de cœur en quelques successions de plans et des commentaires rapides.
Bah, le Reel, c'est assez pratique parce que c'est un peu comme un condensé de toute notre expérience au restaurant en très rapidement, à peu près 30 secondes. Donc, on peut mettre en avant à la fois la nourriture, le décor, les restaurateurs. On peut mettre des images de nous en train de manger, des assiettes. On peut mettre de la voix, de la musique. Donc, ça fait un format très, très immersif et en même temps très dynamique. Donc, ça permet vraiment une sorte de petite immersion pour les gens, voilà, de voir avant même de se déplacer si tout leur donne envie globalement. Mais aussi de mettre notre patte, donc on peut laisser notre voix, on peut laisser voilà nos impressions, notre tête, tout ce qui se passe à la dégustation. Donc ça permet d'avoir un truc assez personnalisé quand même. Et je pense que la vraie spécificité du format Reel sur Insta, c'est son potentiel de viralité. Où en fait, s'il y a une vidéo que l'algorithme va bien aimer, elle peut devenir virale très rapidement. Ça peut faire vraiment des effets de buzz qui peuvent remplir un restaurant presque instantanément pour un certain laps de temps. Et voilà, donc ça peut aller très, très, très vite avec les Reels. Après, le problème, c'est que ça fait justement parfois une surabondance de contenu. Et qu'en ce moment, je trouve que sur les Reels Food, par exemple, on a beaucoup de choses qui sont assez reproductibles, assez copiables. Et il y a un peu ce risque de tomber dans un clickbait où on va vouloir avoir une accroche ou dire qu'on a toujours trouvé le meilleur truc pour que les gens regardent. Et voilà, je trouve qu'il y a un peu un risque d'uniformisation malgré tout de ce format, mais qui peut être hyper efficace en fait.
J'ai demandé à Constance si elle s'autorisait parfois des critiques négatives.
Je me considère vraiment comme un guide, c'est-à-dire les guides, ils ont une double vocation qui est celle de la sélection puis de la notation. Donc d'abord, on sélectionne. Donc pour moi, si j'ai rien de positif à dire sur l'endroit, si je pense pas que ça aura une valeur ajoutée pour les gens, je préfère ne pas en parler. Ça prend tellement de temps de monter une vidéo que j'ai besoin de concentrer mon énergie sur des endroits positifs. Et voilà, et je pense que les gens, ils ont pas envie de perdre 30 secondes, une minute de vidéo pour qu'au final, ça leur donne pas envie et qu'ils se disent « bon, j'ai pas eu de valeur ajoutée positive à ce contenu ». Et voilà. Et puis aussi, c'est déjà assez dur de se sentir légitime par rapport justement aux critiques traditionnelles, de dire « ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé », même si on va asseoir notre avis avec des arguments, etc. C'est quand même assez dur de se sentir légitime. Donc, moi, je me sens encore moins légitime de dire « n'y allez pas, ce resto m'a déçu, c'est pas bon, quoi ». Ça m'est arrivé une ou deux fois, honnêtement, de dire en story « j'ai testé tel endroit et j'ai été déçue ». Et il y a une fois où je l'ai fait et vraiment c'était pas de chance parce que c'était un truc de gaufre très à la mode à l'époque et c'était vraiment pas de chance parce que moi ma gaufre elle était trouée, donc alors que c'est censé être des trucs un peu fluffy etc moelleux, moi j'avais un gros trou, c'était vide à l'intérieur, avait de l'air. Donc j'ai posté un story pour dire bah trop déçu, ce truc à la mode, moi j'ai eu un truc troué. Et en fait c'était une erreur de fabrication, j'avais eu la seule gaufre trouée de la journée. Et la restauratrice était en panique, la pauvre, parce qu'elle m'a dit « Oh non, mais c'est pas de chance, mais ton expérience, elle est pas représentative, etc. » Donc moi, je me suis sentie hyper coupable parce que j'ai partagé mon expérience et finalement, ça a pu avoir un impact négatif alors que c'était que une fois, quoi. Et c'est ça qui est hyper dur avec la restauration, c'est que si ça se passe pas bien, c'est peut-être juste le service qui est mauvais, on peut pas juger là-dessus. Donc maintenant, je me garde de donner des avis négatifs, voilà.
Aujourd'hui, Constance vit de la création de contenu sur sa page Instagram, mais elle a choisi de maintenir une distinction entre ses différents contenus, qui ne sont pas tous monétisables.
Oui, la création de contenu, c'est mon travail aujourd'hui et c'est ce qui me rémunère, mais les reviews des restaurants, je ne gagne pas du tout d'argent dessus. Je me rémunère vraiment grâce aux partenariats que je vais faire avec des marques, via des recettes, des placements de produits tout simplement, mais avec des marques que j'aime bien, etc. Mais toute la partie restaurant, j'ai décidé de pas la monétiser, justement pour garder un petit peu mon indépendance sur les endroits où je vais, les critiques que je fais, le fait de pouvoir nuancer s'il y a des choses qui m'ont pas plu, de donner un avis qui soit quand même, bien que positif, vraiment fidèle à mon appréciation. Donc, on me demande souvent quels sont mes tarifs pour une vidéo, comment est-ce qu'on fait pour être sur ma page. Et moi, je dis, il n'y a pas de tarif, juste si j'ai envie, je viendrai. Et puis, si ça me plairait, je ferai une vidéo. Mais je n'ai pas du tout envie de me limiter, justement, J'ai pas envie que ça devienne un critère de sélection pour les restaurants qui apparaissent sur ma page. J'ai pas envie que sur ma page, il y ait que des adresses qui ont les moyens de payer des influenceurs, en fait. Pour moi, j'ai envie que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et voilà. Donc, sinon, je trouve que ça discrimine, en fait, à l'entrée, ceux qui ne peuvent pas payer ça. Donc, il arrive qu'évidemment, je sois invitée. Auquel cas, je paye pas mon repas et la personne qui m'accompagne ne le paye pas non plus. Mais ça n'engage à rien. Il n'y a pas de contrat qui est signé et ils peuvent très bien comprendre. Ils sont prévenus de la façon dont je fonctionne et je leur dis toujours, voilà, si ça me plaît pas, ne vous attendez à rien. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, voilà. J'ai fait quelques partenariats avec des adresses ou des restaurants, mais c'était pas des reviews. C'était des restaurants où j'étais déjà allée plusieurs fois, que vraiment j'aimais, que j'avais déjà validé, dont j'avais déjà fait des reviews positives et c'était plutôt sur une co-création de contenu. Donc, c'était, je sais pas, ensemble faire un format pour faire un concours, faire une sorte de vlog avec quelque chose, un concept, un script qu'on a écrit ensemble. Mais dans ce cas, c'est vraiment de la co-création, mais c'est pour moi totalement différencié de l'exercice de la critique que je fais sur les restaurants.
Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Chloé Vasselin et de Constance Lasserre, n'hésitez pas à aller les suivre sur Oui Oui le blog et Hungry Consti. Sachez aussi que Chloé organise des food tours qui sont à chaque fois de superbes moyens de passer la porte des Oui Oui en sa compagnie et de discuter avec les chefs en cuisine. Quant à Constance, elle sort très bientôt un livre qui sera une véritable ode à la gourmandise, alors restez à l'affût. Voilà, les deux exemples de néocritiques culinaires que nous avons entendus aujourd'hui sont fortement liés aux nouveaux usages induits par Internet et les réseaux sociaux, caractérisés par la disponibilité des infos sur la toile, la recherche par mots-clés et les hashtags. Mais le renouveau de la critique culinaire peut également passer par d'autres manières de faire encore, tantôt plus ludiques, tantôt plus poétiques. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Bouffon, qui viendra clôturer notre série sur la critique culinaire. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.